Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont de notre cargo filant sur les vagues agitées de la contre et pop culture, fouettées par les vents nouveaux, parfois contrariés, mais toujours vivifiants. Nous sommes le 10 janvier 2026 et il y a 10 ans, jour pour jour, le 10 janvier 2016, disparaissait David Bowie. Au cours des nombreuses saisons de Radio Caroline, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer sous différents angles l'œuvre de ce musicien singulier, génial, protéiforme, cultivé, intrigant, innovateur. Et il y a quelques mois encore, c'était au travers de sa carrière d'acteur, épisode toujours disponible sur Ovio et toutes les plateformes. Alors pour ce voyage, je vous propose de nous focaliser sur les différentes mutations du personnage Bowie, tel qu'il s'est offert au fil de son parcours, réinventant son apparence et ses univers avec la même rapidité qu'il innovait dans sa musique. Des transformations qui, de façon totalement inédite à ce niveau, ont aussi, de façon visionnaire, secoué les stéréotypes d'identité et de genre. Un besoin de réinvention qui prend en partie racine dans son enfance, forcément déterminante à bien des égards, par laquelle nous allons entamer notre périple.
Ce podcast ne contient que des extraits musicaux pour des questions de droit. Pour une expérience complète, rendez-vous sur ovio.be.
En total contraste avec les reliefs et les couleurs parfois saturées qui pigmenteront sa future carrière d'artiste, la petite enfance de David Bowie, né Jones le 8 janvier 1947 à Brixton, dans le sud de Londres, débute, si pas en noir et blanc, à tout le moins en dégradé de gris. Et pour le coup, le smog londonien n'y est pas pour grand-chose. Car au lendemain de la guerre, la Grande-Bretagne et sa capitale en particulier semblent au mieux figées, au pire anéanti. Comme s'en souviennent les contemporains du futur David Bowie qui se sont confiés à l'un de ses éclairants biographes, Paul Chinka, on était mal habillés, on portait des pantalons courts en flanelle grise, dans un tissu épais et rêche, des chaussettes grises et des chemises grises, les routes étaient grises, les maisons préfabriquées étaient grises et même les terrains vagues semblaient faits de gravats gris. Quant au quotidien, il se déroule chaque jour selon une routine qui passe par les petites bouteilles de lait gratuites distribuées aux petits écoliers chaque matin et l'hymne national diffusé en fin de soirée sur les ondes de la BBC avant la fin des programmes. Tout de même, dans cet univers sombre, Brixton, lieu des premières années de David Bowie, enfin de David Jones, a l'avantage de compter quelques hauts lieux du music hall. On trouvait les gens du spectacle partout, confie une voisine de David, des artistes de vaudeville, personnages hauts en couleur, vêtus de costumes et de chapeaux bon marché, transportant des mallettes qui pouvaient contenir une marionnette de ventriloque, un banjo ou un assortiment de couteaux pour leur numéro de lancer de couteau, en route pour un spectacle ou en revenant. De quoi offrir quelques échappées, quelques rêveries aux petits londoniens du quartier qui les voyaient donc passer à travers les fenêtres. Encore que David n'est pas le plus mal loti. Si sa mère fut serveuse dans un cinéma, son père travaille pour une association caritative dédiée aux enfants, au sein de laquelle il va progresser, améliorant au fil de ses promotions le confort de la famille, au départ, il faut bien le dire, assez modeste. En 1953, alors que David est âgé de 6 ans, ses parents décident de déménager au sud du Grand Londres, dans un quartier plus vert. Et cette même année, comme des milliers d'autres, les Jones s'équipent d'un poste de télévision pour assister au couronnement de la jeune et rayonnante reine Elizabeth.
The moment of the Queen's crowning is come.
Bon, rien de là de très passionnant pour le petit anglais, encore que la télévision est en soi, à l'époque, un spectacle étonnant, voire émerveillant. Mais c'est un tout autre événement télévisuel exceptionnel qui, quelques semaines plus tard, va durablement marquer David sur ce petit écran, The Christmas Experiment, la première série de science-fiction produite par la BBC, pour laquelle la Grande-Bretagne va se passionner.
After it has been lost in outer space for 57 hours, following a mechanical failure, Professor Bernard Quatermass is able to re-establish remote control over the world's first manned space rocket when it swings again near the Earth. When the door is opened, one man emerges, Victor Carew. He seems dazed and unable to speak.
Oh, he's so cold.
Victor, wake up. Wake up, you've got to answer my questions.
Stop that, leave him alone.
On the wind.
You're back, you're home, Victor. Don't you know?
David Bowie se souviendra comment chaque samedi soir, il s'arrangeait pour voir ce feuilleton alors qu'il était pour lui l'heure de dormir. Je le regardais caché derrière le canapé alors que mes parents pensaient que j'étais couché. Et après chaque épisode, je retournais sur la pointe des pieds dans ma chambre, paralysé par la peur, tant l'action avait été à mes yeux intense. Un programme qui suscitera chez lui une fascination pour la science-fiction, renforcée par le pouvoir émotionnel de son thème musical, Mars, le porteur de guerre, tiré de la suite des planètes de Gustav Holst. Parmi les atouts qui s'avéreront déterminants et qui surgissent tôt chez le jeune David Jones, futur Bowie, le charme qu'il dégage, ou mieux, comme le précise un camarade de classe, un talent pour utiliser son charme comme arme. Mais sa scolarité sera aussi un facteur clé de son développement créatif, pas forcément musical à proprement parler, mais disons artistique. En effet, bien que ses bons résultats scolaires en fin de primaire lui permettent d'intégrer une bonne école, et l'on sait le caractère sélectif du système britannique, David choisira d'aller à la Bromley Tech, un établissement technique, mais qui a l'avantage à ses yeux d'être lié au Bromley College of Art. Or, comme le note un historien, le système britannique des écoles d'art a jeté les bases de l'influence future de ce pays sur la création artistique, mais aussi la publicité, l'édition, le cinéma et la mode. Elles ont appris à d'innombrables étudiants qu'au lieu de travailler dans un bureau ou une usine, les jeunes pouvaient aussi gagner leur vie grâce à leurs seules idées. Et si pour l'heure David n'est encore qu'en secondaire, il bénéficie tout de même de l'enseignement d'un certain Owen Frampton, un professeur au goût éclectique et passionnant tant au sujet de l'art classique que de l'art moderne. C'est d'ailleurs lui qui suscitera l'intérêt du jeune Bowie pour le peintre Egon Schiele. Question look, pour se distinguer, David ne manque pas de débusquer en ville des pantalons italiens à pinces et un peu bouffants. D'ailleurs, chez cet adolescent de 13 ans plutôt distant, c'est l'apparence que l'on remarque, ses vêtements, sa coiffure et les biens qu'il affiche, offerts par son père, comme son équipement complet de football américain ou son saxophone couleur crème qu'il ne manque jamais d'exhiber entre les cours. Mais il est un autre trait de sa personnalité, de son caractère, une certaine duplicité dont l'une des conséquences va le distinguer physiquement. À jamais. Un jour de printemps 1962, alors qu'il a 15 ans, son ami George donne rendez-vous à une fille de l'école sur laquelle il a des vues. Mais David, un peu jaloux car également intéressé par l'adolescente, informe George qu'elle lui a dit que finalement elle ne viendrait pas à ce rendez-vous. Ce qui est faux, la jeune fille attendra George une heure avant de rentrer chez elle, chagrinée de s'être vue poser un lapin, le plan de David étant d'ensuite s'imposer dans le cœur de l'adolescente abandonnée en la réconfortant. Quand George, un garçon pourtant connu pour sa bienveillance, sa gentillesse, sa joie communicative, apprendra que David lui a menti, une violente bagarre éclatera, l'ami trahi frappant David d'un violent coup à la tête, blessant profondément et involontairement son globe oculaire. Une blessure grave qui, après un passage à l'hôpital, éloignera Bowie de l'école pendant plusieurs semaines, la rumeur se répandant qu'il risque de perdre la vue de son œil gauche. Ce qui laissera George mortifié. Au final, la blessure entraînera la paralysie des muscles de l'iris, laissant sa pupille dilatée en permanence et lui donnant une couleur différente par rapport à l'autre œil, en plus d'une perception de la profondeur altérée. Les adolescents finiront par se réconcilier, David remerciant même son ami, l'assurant que finalement ça lui donne une sorte d'aura. En revanche, des années plus tard, David feindra toujours de ne pas se rappeler l'origine de cette bagarre. C'est quelques semaines après celle-ci, le 12 juin 1962, que David Jones Bowie montra pour la première fois sur scène à l'occasion de la fête donnée par l'association des parents de l'école devant 4000 parents et habitants du quartier. Au sein de son groupe, les Conrads, David, cheveux blonds coiffés en banane et saxophone crème en bandoulière, se tient aux côtés de George Underwood, qui joue, lui, des riffs des Shadows sur sa guitare Hofner. Et à l'époque, c'est sur le beau et grand George, aux cheveux noirs et qui imite Elvis à la perfection, que tout le monde mise. La future star, pense-t-il, ce sera lui.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
1964 marque un jalon d'importance pour David Bowie. Il a 17 ans, c'est l'année de son premier single, mais aussi, nous allons le voir, celle de sa première revendication publique au sujet de son apparence. Pour ce qui est de la musique, c'est sous le nom de David Jones with the King Bees qu'il entre pour la première fois dans un studio d'enregistrement pour y graver Lisa Jane, adaptation d'un morceau traditionnel américain. Mais cette même année 64, s'il fait aussi sa première apparition dans un studio de télévision de la BBC, ce n'est pas dans le cadre d'une émission musicale pour y défendre son disque, mais bien dans une émission de débat de société en tant que fondateur de l'Association de prévention contre la cruauté à l'égard des cheveux longs. Car, comme le précise d'emblée le journaliste, les adolescents qui ont décidé de se laisser pousser les cheveux en ont marre d'être stigmatisés, renvoyés de leur école ou de leur travail. David précisant quant à lui que oui, se faire traiter de darling, ça commence à bien faire, même si les cheveux longs, il aime ça.
It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution. They're tired of taunts. They're tired of losing their jobs. They're tired of being sent home from college. They're tired of being sent home from school. They're tired even of being refused the dole. So with the nucleus of some of his friends, a 17-year-old, Davy Jones, has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, what, 9 inches long before you can join?
Well, I think we're past that over now.
Have you?
Yes.
Now, exactly who's being cruel to you?
Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like, darling, and can I carry a handbag thrown at us? I think it's just had to stop now.
But does this surprise you that you get this kind of comment? Because you're, after all, you haven't got really rather long hair, haven't you?
We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And we don't see why other people should persecute us because of this.
Quelques mois plus tard, en 1965, David rejoint un nouveau band, The Manish Boys, qui enregistre un single. Ce morceau, Take My Tip, qui se trouve en face B du disque, est la première composition originale signée David Bowie à se retrouver sur un single. Le chanteur est alors âgé de 18 ans et son rêve, avouera-t-il, est d'être le Mick Jagger des Manish Boys. Sauf que, sans même parler de la musique, question looks, c'est davantage vers les mods qu'il lorgne avec sa coupe de cheveux impeccable, ses chemises boutonnées jusqu'au col, ses pantalons arrivant à la cheville et ses bottines pointues. Bowie est élégant, très élégant, mais sans en rajouter. Et pour les observateurs patentés, ce combo 60s constitue l'un de ses styles les plus marquants, qu'il exposera comme leader de sa dernière tentative en groupe avant de s'envoler en solo. Le premier succès de David Bowie, Space Oddity, bizarrerie spatiale, titre et univers inspiré du film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, ce n'est pas en tant que personnage fictif qu'il le décroche en 1969, mais en racontant l'histoire d'un être imaginaire nommé Major Tom, en lequel il aurait pu pour l'occasion se déguiser, mais il n'en fera rien. Musicalement, Bowie s'est éloigné du genre musical de son premier album sorti 2 ans plus tôt, pour explorer une sorte de folk psychédélique au travers de ce qui est alors sa composition la plus complexe. Cela étant, quand je dis qu'il n'a pas incarné de personnage, c'est pas tout à fait exact, car sur les images télévisées qui accompagnent la sortie de ce morceau, on peut voir Bowie vêtu d'une combinaison d'astronautes, et d'ailleurs ce disque sera utilisé par la BBC lors de l'alunissage d'Armstrong. Par ailleurs, 3 ans plus tard, c'est en Ziggy Stardust et dans la foulée du succès de ce dernier personnage que Bowie sera filmé pour le clip accompagnant la nouvelle sortie de Space Oddity, choix évidemment cohérent avec son nouvel univers. Comme on va l'entendre de sa propre voix, pour Space Oddity, enregistré en 1969 donc, c'est le sentiment d'isolement qui se dégage du film de Kubrick qui l'a véritablement inspiré. Ce point, ainsi que d'autres éléments, détermineront non seulement le genre de musique qu'il composera, mais aussi le genre de spectacle qu'il élaborera et le style de vie qui sera le sien au cours des 70s. Ground control
to Major Tom's. Among a number of films that made a deep impression upon me in the 60s, I think one of the most important at the very end was 2001, Stanley Kubrick. It was the sense of isolation that I related to. That, in combination with a number of other elements, set the pattern for a lot of the kinds of music that I wrote and the kind of performances that I gave, and probably predicted my lifestyle for the 70s.
Sur la pochette de son troisième album, sorti au printemps 1970, The Man Who Saw the World, on verra Bowie allongé sur une chaise longue dans un salon du château de Haddonhall, vêtu d'une robe en satin de couleur crème et bleu, première expression publique de son androgynie, sa pose inspirée d'une peinture pré-raphaélite. L'androgynie sera encore de mise un an plus tard pour la photo du 33 tours Hanky Dory. Il s'agit d'un gros plan de Bowie regardant au-delà de l'objectif, plaquant ses cheveux vers l'arrière. Une pose évoquant celle des actrices Greta Garbo, Lauren Bacall ou Marlene Dietrich sur leurs clichés datant des années 30 et 40. Une photo en noir et blanc à l'origine, mais colorisée par l'illustrateur Terry Pastor, qui colorisera aussi d'ailleurs celle de la pochette de Ziggy Stardust. En 1971, le Britannique Tony DeFreeze, nouveau manager de David Bowie, se présente à New York dans les bureaux de RCA pour y rencontrer les dirigeants de cette compagnie discographique dont la plus grande star est encore et toujours Elvis Presley. « Vous n'avez rien eu depuis les années 50 », leur lancera DeFreeze, « mais vous pouvez dominer les années 70 si vous signez David Bowie, car il va révolutionner cette décennie comme les Beatles l'ont fait dans les années 60 ». Une chose est déjà sûre, David Bowie sera dans les mois qui suivent la première star à créer un double imaginaire, fruit précisément de l'idolâtrie. Un être que ses fans placeront sur un si haut piédestal qu'il ne pourra plus en redescendre. Ce sera Ziggy Stardust, le personnage le plus emblématique et mémorable incarné par ce caméléon de David Bowie. Et il sera vêtu d'une combinaison multicolore en lycra et autres costumes dessinés par Freddie Buretti et Kanzai Yamamoto. Sur le front, une sphère astrale dorée, quant à sa chevelure, rouge carmin. Une rockstar extraterrestre, bisexuelle, messager d'être venu d'ailleurs. Une créature dont l'univers a pris racine dans la passion pour la science-fiction qu'entretient Bowie depuis l'enfance, comme nous l'avons vu. Mais qui sera aussi l'aboutissement d'une relation d'abord amoureuse et puis très vite artistique, entamée quelques années plus tôt avec le chorégraphe, danseur et mime Lindsay Kemp. Une rencontre qui eut lieu l'été 1967, comme l'avait raconté Lindsay Kemp à Gilles Verlan pour son émission de la RTBF Ligne Rock. J'avais entendu sa voix à la radio. Et cette voix m'avait attiré comme celle d'une sirène. Riding on a golden horse. It was inevitable that we. Il était inévitable que nous nous trouvions. David est venu me voir alors que je me produisais dans un petit théâtre. In a very small theatre in London and adored me. And during the interval, he heard his music being played, and then he came backstage. Il m'a ensuite rejoint dans les coulisses et m'a dit, si tu m'apprends à danser, je t'écrirai des chansons. J'ai donné à David Bowie une beauté visuelle qu'il n'avait pas encore. Il a travaillé dans ma compagnie pendant 3 ans, mais au début, comme pour chaque nouvel amour, on a envie que les gens vous demandent « Mais avec qui étais-tu hier soir ?»
Who was that lady I saw you with last night? Or who was that man I saw you with last night? You know, it's very important, especially for me, that they notice what I'm wearing or who I'm in love with. The dancer has a...
C'est important pour moi. Or aucun danseur n'avait fait attention à lui.
They didn't mention his voice. They didn't mention the way he looked. So I picked up a can of spray.
Alors j'ai pris une bonbonne de peinture rouge et je lui en ai mis plein les cheveux. Et le lendemain, tout le monde m'a demandé avec qui étais-tu hier soir. Ensemble, Bowie et Kemp élaboreront le spectacle Pierrot in Turquoise, qu'ils répéteront en décembre 67 pour le jouer début 68. Une histoire d'amour contrariée entre Pierrot, Colombine et Arlequin, Kemp dans le rôle de Pierrot, et David interprétant un être protéiforme nommé Nuage, une sorte de chanteur de ballade portant différents masques et mimant différents personnages. En plus des chansons originales composées pour le spectacle, David interprétera trois extraits de son premier album « When I Live My Dream », qu'apprécie particulièrement Kemp, « Sell Me a Coat » et « Come and Buy My Toys ». Au début des années 70, alors qu'il projette le spectacle qui accompagnera la sortie de l'album « Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars », David recontactera Lindsay Kemp.
I got a call from David Bowie's wife.
J'ai reçu un appel de la femme de David Bowie me demandant si je voulais mettre en scène un show qui allait s'appeler Ziggy Stardust. Quand je l'ai vu, j'ai eu un choc. Ce n'était plus le Bowie que j'avais connu, c'était un David Bowie rock'n'roll.
Wasn't the David Bowie that I knew, it was a very rock'n'roll David Bowie. David had absorbed so much. He just took.
David avait absorbé tellement de choses, plein d'éléments théâtraux auxquels je l'avais initié. Retrouvons David Bowie dans sa loge du Rainbow Theatre de Londres en 1972, expliquant que sur scène, il est Ziggy. Et puis, on entendra une fan en larmes et la femme de Bowie, Angie, ravie qu'il soit aimé par tant de gens. N'aimeriez-vous pas?
I'm very much a character when I go on stage, I feel. I mean, I...
Like an actor?
Yeah, I believe in my part all the way down the line, right the way down. But I do play it for all it's worth. Because that's the way I do my stage thing. That's part of what Bowie's supposedly all about. I'm an actor.
They said he was coming around the back. I've been waiting for ages to see him.
Why are you so upset?
They smashed it.
You're David Bowie's wife, right?
Yes, I am.
What's it like with all these girls loving your husband so much?
Absolutely fabulous. Wouldn't you love to be loved by so many?
En 1973, David Bowie reviendra sous la peau d'un nouveau protagoniste dont il nommera son disque Aladdin Sane. Personnage librement inspiré de son demi-frère Terry, de 10 ans son aîné, et qui avait ouvert le jeune David au jazz moderne, au bouddhisme, à la poésie beat et même à l'occultisme. Bowie affirmera avoir reçu de lui la meilleure éducation possible. Il m'a ouvert les yeux sur le monde qui m'entourait. J'ai perçu la magie et j'étais touché par son enthousiasme. J'avais envie de lui ressembler. Un frère, cependant, diagnostiqué schizophrène et qui passera de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Aladdin Sane ne s'entend-il pas comme a lad insane, un garçon fou? Mais question look en 1973, c'est à nouveau de la folie du styliste japonais Kansai Yamamoto dont David va se draper sur scène. Il y aura cette iconique combinaison de vinyle noir aux jambes larges rayées de blanc, une cape blanche recouverte de kanji, signe japonais, ou encore une tenue bleue, noire et rouge adaptée des pantalons amples portés par les samouraïs. L'année suivante, c'est en créature mi-homme, mi-chien qu'il est représenté sur la pochette de Diamond Dogs. Et ce, par... il va nous le dire.
Well, it's an artist from Belgium called Guy Pellin, who did a book called Rock Dreams. Mm-hmm.
Eh oui, l'artiste belge Guy Pellaert, merci pour lui, qu'il avait découvert grâce à son livre Rock Dreams. Ensuite, pour Young Americans en 1975, David Bowie renouera d'une certaine manière avec le David Jones un peu mods. Sauf que sur ses chemises, les cravates se font désormais plus larges, ses costumes accentuant sa silhouette presque triangulaire. Quant aux cheveux, ils ont viré du orange au caramel. Et puis viendra le fameux Think White Duke, dernier personnage de David Bowie au sens strict du terme, inspiré du rôle interprété dans le film The Man Who Fell to Earth et associé à l'album Station to Station et à la tournée qui l'accompagnera. Cheveux blonds plaqués en arrière, chemise blanche impeccable, gilet noir, pantalon noir et une maigreur dérivant de son régime d'alors, poivron, lait et beaucoup de cocaïne. Ce Thing White Duke, Bowie le décrira comme un type très arien, presque fasciste, un romantique raté, totalement dépourvu d'émotions, mais qui débutait des discours néo-romantiques à n'en plus finir. Et puis bien sûr, en 1980, impossible d'oublier, même s'il ne sera essentiellement qu'une apparition dans une fabuleuse vidéo, le clown triste d'Ashes to Ashes, titre phare de l'album Scary Monsters and Super Creeps, qui lance les années 80 et baigne dans l'imagerie néo-romantique et androgyne ambiante. Avant que le succès pop massif et mainstream de Let's Dance en 1983 ne lui fasse opérer un xième virage stylistique, Bowie adoptant l'allure d'un gentleman moderne, avant qu'Alexander McQueen ne lui coupe une veste Union Jack au milieu des années 90, et avant que, ultime apparition de l'artiste, le spectre de Lazarus ne nous tire les larmes début janvier 2016. Notre périple à travers les multiples transformations, réinventions de David Bowie se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir et à l'étoiler. Belle nuit ou belle journée.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.